Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC.
RMC.
L'avion va s'emballer et applaudir les joueurs. Oui, vive Volta!
On a fait Paris, Dubaï, Dubaï, Istanbul, Istanbul, Casablanca, Casablanca, Ouagadougou.
L'effectif n'est pas du tout le même, donc il faut passer à des choses peut-être un peu moins gling-gling, on va dire.
Rien n'est jamais tombé, justement, sur un plateau d'argent pour eux.
Jusqu'à minuit 30, l'After Foot, Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit et demi sur RMC, sur la chaîne YouTube After-Foot. L'After est là, premier podcast de France, espace de liberté de tous les supporters. Au 32-16, n'oubliez pas qu'après l'After, il y aura la libre antenne de l'After jusqu'à 1h30 du matin avec Oussem Moussaïef, Julien Cazard et Walid Acherchour ce soir. Daniel Riolo est là, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et Kevin Diaz est là, salut Kevin.
Salut à tous.
Kevin, l'homme du samedi soir.
Et
voilà,
ouais.
Le samedi soir, c'est sa case.
Saturday Night Fever.
Ouais. Voilà.
Friday, Saturday.
Qualification de la Suisse, qualification de l'Allemagne. 2-0 les scores du jour. 2-0 pour les Suisses face aux Italiens. 2-0 pour les Allemands face aux Danois. Donc la Suisse qui a comme perspective d'affronter pourquoi pas l'Angleterre. Le match des Anglais c'est demain face à la Slovaquie. Et l'Allemagne qui affrontera le vainqueur du match Espagne-Géorgie. On va analyser tout ça avec les drôles de la
Polo, il va placer trois équipes en quart.
Et il est là Polo, il est là.
Son pays plus les deux dépendances.
Attends, l'Autriche n'est pas qualifiée.
Oui, mais j'ai le droit d'envisager.
Tu peux.
L'envisager. L'Autriche, donc ça va faire ses trois pays à lui.
L'Autriche,
c'est son
une...
football qui domine.
L'Autriche, c'est pas une petite dépendance de l'Italie aussi. C'est pas très loin, non.
On va dire qu'historiquement, c'est plus une dépendance pour l'Allemagne quand même.
Oui, en effet.
Selon Giroud.
Nous, c'était pas vraiment dans ce sens-là. C'est plutôt eux qui ont essayé de venir mettre les chaussons chez nous. C'est pas la même chose.
Alors, bien sûr, jusqu'à minuit 30, on est là. Je vous rappelle qu'on est à 49 jours de la reprise de la Ligue 1. Toujours la faillite est là, hein. Toujours pas de contrat de droit télé, on attend. On ne voit rien venir. Avant d'accueillir Polo Breitner, j'aimerais faire une petite incursion dans le domaine de l'arbitrage.
Ah oui ?
Oui, Stéphane Lannoy est là, notre
pourquoi
arbitre. Parce que...
Alors, est-ce que historiquement, il va répondre, mais comme ça lui permet de m'entendre. Mm-hmm. Est-ce qu'historiquement, Stéphane Lannoy n'était pas contre la VAR, puis était devenu pour la VAR ? Et on ne sait plus trop où il en est aujourd'hui, bah, et nous non plus d'ailleurs.
Enfin,
nous, on sait
point.
Où on en est, puisqu'on n'a jamais changé d'avis.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir à tous. Bonsoir.
Salut Stéphane.
Bonsoir Daniel. Bonsoir Kevin.
Salut Stéphane.
En effet, Daniel, t'avais bien suivi mes différentes évolutions au regard de l'assistance vidéo. Au départ, j'y étais. Au tout début de sa mise en place, j'y étais farouchement opposé. Pour une bonne et simple raison. C'est que je craignais qu'en mettant le doigt dans l'assistance vidéo, on aille beaucoup trop loin et qu'à un moment donné, on ne se satisfasse pas seulement de revenir sur des décisions de pénalty, de carton rouge, de but ou d'erreur d'identité, mais qu'on aille beaucoup plus loin au risque de déresponsabiliser de plus en plus les arbitres. Et puis, avec l'évolution des choses, je me suis rendu compte que finalement, l'assistance vidéo restait dans un cadre qui était quand même bien réglementé et que ça permettait quand même de corriger pas mal d'erreurs manifestes finalement. Donc, vous voyez par exemple ce soir, sans l'utilisation de la VAR, le premier but du Danemark aurait été validé. Le pénalty pour la faute de main n'aurait pas été sifflé, donc voilà. Donc,
oui, mais Stéphane, il y a problème.
Oui, mais le problème, c'est... Ouais.
On n'en peut plus de ces hors-jeux-là. Lukaku, l'autre jour, 1 cm de pied, si, en gros, si Lukaku fait du 39 et pas du 47, il n'y a pas hors-jeu. Pareil ouais. Ce soir pour le Danois. On ne voit jamais le départ du ballon. Pardon, la technologie est remise en question.
Le péno, pour un pouce.
Le péno, il suffit de tirer dans les bras en fait, du mec d'en face, il y a péno.
Non, mais Stéphane...
en fait, alors moi, je comprends que l'application stricte...
Après, okay, si Stéphane nous dit que ce soir, tout a été bien fait,
mais l'esprit du jeu, c'est une catastrophe. catastrophe, on n'en peut plus.
Et puis Stéphane, vous qui suivez quand même, je pense, tous les championnats, notamment en France, moi je suis quand même désolé, mais à partir du moment où vous considérez ce soir que les règles, en tout cas mises en place par l'IFAB ou par l'UEFA pour ce tournoi, sont respectées. Mais moi, c'est pas mon football en fait ce soir. Je suis désolé, Stéphane. Pour moi, le hors-jeu, la règle du hors-jeu initial, vous m'arrêtez si je me trompe. La règle du hors-jeu, c'est si un attaquant est sur la même ligne que le dernier défenseur, il est dans ce cas-là en jeu pour aller marquer un but. Et aujourd'hui, on ne parle plus de ligne à l'œil nu d'un arbitre assistant ou d'un arbitre de ligne, je sais pas comment on l'appelle. On parle d'une pointe de chaussure. Si le mec fait du 47, il est hors jeu. Si le mec fait du 42, il est pas hors jeu. C'est pas ça la règle initiale. Pareil pour la règle des mains, et après je vous laisse répondre. La règle des mains, c'est une main qui doit être volontaire. À la base, c'est une main qui doit être volontaire. Si vous considérez que dans mon football, ou dans le football qu'on a aimé, cette main doit être sifflée parce que c'est une main volontaire. Non, mais parce qu'il a.
C'est pas lui qui arbitre l'histoire.
Je sais bien, mais Stéphane dit que pour lui, il y a eu des erreurs qui ont été. Il y a eu des erreurs qui ont été. Des erreurs manifestes qui ont été, remis en cause ou mises en lumière. Mais je suis complètement. Vous avez complètement tort. Pour mon foot, vous avez complètement tort. Donc je sais pas.
Non, mais je comprends. Je comprends, Kevin, votre position qui est du reste, je pense, la même pour Daniel. Elle est pour Gilbert, parce que vous êtes des passionnés de football, et on est tous des passionnés de football avant tout. Même les arbitres sont passionnés de football, et évidemment de se dire de refuser un but pour 1 centimètre ou 2 centimètres, c'est complètement stupide. On laisse plus la possibilité aux attaquants de s'exprimer. Dans le doute, on laisse plus la possibilité de faire vivre le spectacle, d'être générateur de buts marqués, de favoriser le jeu. Et aujourd'hui, on en arrive à refuser des buts pour 1 centimètre. Maintenant, c'est la règle. Plus personne ne peut venir aujourd'hui contester l'outil qui est extrêmement pointu.
Non, Stéphane, moi je le conteste. Parce que à quel moment décide-t-on du hors-jeu quand le ballon quitte le pied? Est-ce que on a la technologie avec puce dans le ballon et tout, mais c'est au moment où le ballon quitte le pied pour la dernière passe. On ne voit jamais cette image.
Non, pas du tout. Et c'est pour ça, c'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire, autant par le passé, on pouvait discuter du départ du ballon, quelle image est utilisée, à quel moment, est-ce que c'est cette image-ci, celle juste avant, celle juste après. Et donc, évidemment, quand on utilise une image et quand il y en a 300 par seconde, laquelle utilise-t-on vraiment pour définir le point de départ du ballon? Tout ça était très aléatoire au départ, et ça pouvait générer des différences. Aujourd'hui, et ce qu'il faut bien savoir, et ça me permet de rappeler la règle aux auditeurs d'RMC, c'est qu'il y a 12 caméras sous les toits du stade qui sont utilisées uniquement pour le hors-jeu. Vous avez un capteur au centre du ballon et qui, lui, envoie des données, 300 données par seconde, systématiquement, en temps réel, tout le temps. Dès lors que le joueur touche le ballon, c'est pas au moment où il quitte le pied, c'est au moment où il touche le ballon, le capteur envoie donc au centre de visionnage les images précises du point de contact. Et à partir de ce moment-là, l'intelligence artificielle entre en ligne de compte, analyse les données du capteur du ballon, les 12 caméras qui reprennent 29 points corporel sur chacun des joueurs, avec toutes les extrémités. Je rappelle que dans la règle du hors-jeu, les mains, les bras ne comptent pas, mais toutes les autres extrémités, bout du pied, genou, la tête, tout ce que vous voulez, 29 points corporels. Toutes ces données sont digérées par l'intelligence artificielle, qui finit par vous renvoyer derrière une incrustation image en 3D pour vous dire, bah oui, l'attaquant, je suis désolé, mais l'attaquant est hors-jeu de 2 cm d'un bout de chaussure. Voilà, c'est la règle.
Que de moyens déployés, que de technologies.
Beaucoup. Ah oui, énormément, Daniel.
Je finirai par dire, parce que tout à l'heure, j'ai parlé des différents championnats qu'on pouvait suivre. Bah moi l'année dernière, je préférais voir un match de Ligue 2 qu'un match de Ligue 1 parce qu'en Ligue 2 il y a pas le VAR. Et l'année prochaine, je préférais voir un match de National qu'un match de Ligue 2 et on redescendra aussi bas et vous verrez que on en reviendra à ça et que le désamour des gens pour ce sport outre pas mal de choses que ce business est en train de d'englober, j'ai envie de dire ou de tuer, et bah la VAR en fait également partie.
Oui, et malheureusement la suite logique c'est qu'il y aura bientôt plus d'arbitres. L'intelligence artificielle fera tout. Merci Stéphane.
Mais je vous en prie.
À très bientôt. On reparlera de tous ces sujets passionnants. Stéphane Lannoy avec nous.
Moi, la vérité, je trouve que tout ça ne sert plus à rien.
Quoi d'en parler ?
Oui, parce que ça a animé nos discussions, nos débats pendant des années. Quand on a combattu cette idée, qu'on sentait que ça allait arriver, je pense qu'on a été extrêmement précurseurs dans ce domaine et dans les débats qu'on a mis en avant, surtout qu'on était. Il n'y avait que nous qui étions contre la VAR. Tout le monde pensait que c'était le progressisme des choses, la normalité qui allait arriver. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont sceptiques, beaucoup ont fait marche arrière. Mais au fond, je suis un peu désabusé parce que pendant un moment, j'étais très fier de ça. On était les seuls, on faisait des grands débats là-dessus. Mais en fait, non seulement il n'y a pas de retour en arrière possible, mais on va pousser encore plus loin la technologie puisqu'il va falloir tester et utiliser tous les outils. Intelligence artificielle, il y a un an, il n'y avait pas. Maintenant, c'est capteur dans ballon. T'as vu, pour le pouce, c'est limite le cœur qui bat.
Ouais, non.
Donc,
l'intensité. Je dis, les arbitres, en autorisant ça, en fait, ont signé leur arrêt de mort. Voilà. Oui. Bientôt, il n'y aura plus d'arbitres, en fait.
C'est même pas ça.
Ça ne sert même plus à rien qu'on en parle.
Bah, si, ça sert parce que. Parce que, par exemple, il n'y avait jamais pénalty sur le match entre le Portugal et la Géorgie où le défenseur de Benfica la touche le joueur alors que le joueur amplifie largement son contact.
Bien sûr qu'il y a péno.
Jamais de la vie. Ah,
pour moi,
tu vois, c'est pas manifeste. Donc si c'est pas manifeste, il faut pas revenir. Tu vois ce que je veux dire? La règle, c'est ça.
Les gars,
si c'est pas manifeste, il faut pas revenir.
On a un raccourci à cause de leur âge tout à l'heure là, donc on va retrouver Paulo Brancard dans quelques instants, analyser
justement,
le match de l'Allemagne.
Tous les contacts ne sont pas une faute, Daniel.
Et ensuite le match de l'Italie et de la Suisse.
Jamais de la vie. Jamais de la vie.
Exagère, ça veut dire que c'est pas vrai.
Et bien sûr que si.
Ah non.
À tout de suite dans la fin.
Non, pas du tout.
Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% Route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 3216 touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% Route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio.
RMC, l'after foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
23h34, Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là également. Paulo Breitner nous rejoint, salut Paulo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Salut Paulo.
L'Allemagne est qualifiée.
Sera rejointe par l'Autriche bientôt et la Suisse également. Bravo Paulo. C'est un triplé. Annoncé.
On verra,
tu as raison. Bon, est-ce que tu as l'impression d'une Allemagne qui monte en puissance ou est-ce que malgré tout tu te poses quand même pas mal de questions ce soir ?
Je me pose toujours les mêmes questions. Cette équipe est fondamentalement très 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 talentueuse, mais elle est fondamentalement friable. Et ça, c'est l'absence de vécu qui fait que la première tournoi version Nagelsmann avec des jeunes dans son équipe, qui fait qu'elle n'a pas le passé de ses grandes devancières. Et ça se ressent, c'est-à-dire que le 3-0, il doit être réglé très rapidement par les Allemands. Ils ne le font pas parce qu'ils font les mauvais choix, etc. Il y a des points positifs. Ce soir, j'ai beaucoup aimé la défense centrale, Rüdiger Schotterbeck, par rapport à Rüdiger Jonathan Tah. Il y a des, notamment dans les 30 derniers mètres des Danois dans leur surface, il y a plein de mauvais choix faits par les Allemands alors qu'ils sont supérieurs. Et puis il y a toujours ce problème d'ouvrir le score qui permettrait de dérouler par la suite. Ce soir, il y a quand même, vous en avez parlé, j'ai pas voulu intervenir, vous avez parlé de la VAR et tout ça. Ça se joue quand même sur une décision arbitrale, pas grand chose, quoi. C'est-à-dire que moi, le but danois, je l'aurais pas accordé. Non pas parce qu'il y avait 2 cm, mais parce que Andersen est hors-jeu, il revient, et c'est cette fameuse règle du hors-jeu passif et tout ça, qui est débile, mais c'est pas grave, c'est comme ça, on est au 21e siècle. Non, mais je le pense vraiment, le mec il est hors-jeu, et ça n'existe pas. Un défenseur qui ne regarde pas où sont les autres, ça n'existe pas. Donc la notion de passivité n'existe pas. C'est un truc complètement délirant, en philosophie si vous voulez, mais c'est pas grave. Donc quand tu regardes la rencontre, tu vois bien que les Allemands sont supérieurs aux Danois, mais qu'ils ne maîtrisent encore une fois pas une rencontre pendant 90 minutes. Choix fort fait par Nagelsmann, de mettre David Rohm, de mettre Leroy Sané à la place de Wirtz, et puis il m'en manque un troisième, oui, Schlotterbeck évidemment, mais et même les quand il a fait rentrer les équipes, les ses joueurs, il a joué avec deux attaquants pendant un moment, c'est ce que je réclame ou ce que je voulais voir plusieurs fois. Donc il y a plein de points positifs, mais de là à dire que la Nationalmannschaft est un candidat dans son tournoi au titre, ça me semble un petit peu pousser le bouchon un peu trop loin pour l'instant.
Ah non, mais bien sûr que c'est bien sûr que c'est des candidats
en match dans l'ordre et tout, ça vous embête pas quand même? Parce que non, mais c'est vrai, on est un peu parti.
Reprends le fil de cette émission.
On peut faire une considération générale avant de reprendre le match.
Reprends le fil de cette émission, alors, Daniel.
Okay. Oui. Ne reprenons pas le fil, je vais répondre à Polo. J'entends ce que tu dis. Maintenant, dans cet Euro, je n'arrive pas à trouver une équipe. Demain soir, on va revoir l'Espagne. Mais je n'arrive pas à trouver une équipe qui affiche ce que tu réclames de l'Allemagne. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Mais je vois plein d'équipes qui jouent par séquence, qui par séquence sont... Alors en plus, le match de ce soir a été très particulier, puisque pour le coup, il y avait des vraies séquences avec les arrêts de jeu qui ont quand même, je trouve, fortement perturbé l'analyse qu'on peut avoir de la rencontre. Tu t'arrêtes 25 minutes, après t'as la mi-temps, après tu reviens. Et par séquence, j'ai trouvé les Allemands très bons. Et après, comme tu dis, sur d'autres séquences... nettement moins bien, ou oui, tu te dis, bah tiens, là, ils sont friables, tiens, bon, après, ils ne jouent pas tout seuls, ils jouent face à des Danois qui ont toujours affiché dans les compétitions internationales des équipes qui étaient capables de créer des choses face à n'importe qui. Donc, je ne sais pas si tu es trop exigeant en voulant que l'Allemagne écrase complètement son match, mais ils ne jouent pas tout seuls. Et encore une fois, comparé à tous les autres, moi, je vois pas d'équipe. Peut-être que l'Espagne nous montrera demain, si elle est parfaite encore contre la Géorgie, que c'est la seule équipe de cet Euro qui arrive à avoir une continuité dans le contenu de ses matchs. Pour le reste, moi, j'ai vu le premier match de la Suisse, c'était très moyen. Derrière, ils nous font que forte impression. Les Pays-Bas, c'est un coup oui, un coup non, voilà. On a eu l'Angleterre, on n'en parle même pas. C'est même pas des bribes de bonnes séquences qu'ils ont, c'est pas grand-chose. France, c'est la même chose. Le Portugal, c'est un coup oui, un coup non, on ne sait pas trop où on est. J'ai l'impression quand même que dans ce tableau, l'Allemagne ne s'en tire pas si mal avec, tu l'as dit, toujours... beaucoup de joueurs talentueux. Les 20 premières minutes de l'Allemagne ce soir, je les ai trouvées dingues. J'ai adoré ce qu'elle a proposé dans cette séquence-là. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, il y a eu des choix que Nagelsmann a fait. Pour l'instant, je ne partage pas tous ces choix. Je suis de plus en plus convaincu que Füllkrug doit jouer, même si Havertz ne fait pas un mauvais match ce soir. Il a sorti Wirtz pour mettre Sané. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais j'imagine que Leroy Sané t'a montré son visage habituel et que il ne doit pas y avoir une grande réconciliation entre mais vous.
Il n'a pas gagné sa place. On va dire.
Voilà. Franchement, je suis désolé, les gars, mais je suis rarement catégorique comme ça. Mais Leroy Sané, c'est pas possible.
C'est pour ça.
C'est pas possible.
Oui, mais c'était un choix.
Il fait des contrôles à 3 mètres.
J'étais étonné que Nagelsmann.
Ah, il va vite, mais c'est tout.
Certains en Allemagne ont considéré que Wirtz n'avait pas été forcément extraordinaire.
Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre.
Ok, c'est vrai, mais. Je lui aurais maintenu quand même une forme de confiance sur toute la compète, parce que de toute façon, c'est pas Leroy Sané qui va l'inquiéter. On a continué de voir un Moussiala très bon. Et là où il y avait un autre choix, et là, je sais pas si tu l'as dit, Polo, mais en tout cas, je sais pas si t'en as parlé, je t'ai pas entendu, mais la défense centrale, je pense que c'est celle-là qu'il faut jouer. Hein.
Ouais, moi, j'aime.
C'est de loin la celle qui a le plus rassuré. Parce que
moi, déjà, je l'avais beaucoup aimé avec Dortmund contre le PSG sur les deux matchs. J'en avais très souvent parlé, en ayant du mal à dire son nom, qui pourtant très simple à dire.
Tu peux dire Flotty.
Mais je kiffe ce joueur. Vraiment, j'aime beaucoup ce joueur.
Bah, même si à un moment, il fait une erreur, Polo, pour un mi-temps. Il marque sur le ballon, là, il a bien failli coûter un but à son équipe.
Donc, je sais pas ce que t'en penses, Polo, de ce que je dis, parce qu'une équipe, il faut aussi la prendre dans son contexte du moment.
Bah oui, mais tu as dit à peu près ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que il y a des moments où l'Allemagne se balade. Les 20 premières minutes, l'Allemagne s'est baladée face aux Danois, ils ont balayé de la rencontre. Le problème, c'est qu'ils profitent pas de ce moment pour marquer.
Ouais.
Et ça, c'est récurrent. C'est-à-dire que c'est toujours. Je pense pas que ça a à voir avec la dernière décennie où les Allemands arrivaient pas à marquer, où ils voulaient rentrer dans le but avec le ballon, etc.
Ouais.
C'est juste que l'animation offensive dans l'avant-dernière passe parfois n'est pas bonne, dans la dernière passe elle est pas bonne. La question de Kai Havertz qui te fait des coups merveilleux. Et puis qui rate parfois des choses très faciles ou hors jeu comme au moment où il ne faudrait pas l'être. Mais et puis c'est ce fait de s'écrouler, parce qu'ensuite dès que les Danois ont commencé à ressortir la tête de l'eau, et tu as raison de rappeler que les Danois c'est pas des billes,
ouais.
Le génération après génération, ils ont réussi, mais tu vois que techniquement ils sont pas au niveau des Allemands. Et même s'ils ont leur jeu, etc. Ils étaient invaincus. C'est une équipe qui est invaincue en 2004 comme la Nationalmannschaft. Donc il y a quand même de la confiance, etc. Mais les Allemands n'ont pas ce vécu qu'ils avaient dans les grandes équipes allemandes, et donc Donc, tu es toujours en train de te dire, est-ce qu'on va tenir le 2-0? Est-ce qu'il va y avoir 2-1? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le 3-0? Et ce soir, quand tu vois les occasions pour mettre le 3-0, et puis, vous en avez parlé avant, quand même, l'effet de jeu, quoi. Enfin, le fait, évidemment, que le but danois soit refusé, puis ensuite, il y a pénalty 42 secondes après. Pour eux, ça tourne pour les Allemands. Ça aurait pu très bien être l'inverse, et on ne sait pas
ouais,
comment
ça tourne. Mais ça tourne, ça. Je suis d'accord, ça tourne. Comme le premier but de la tête, bon, on a vu après, sur les images, qu'il y avait peut-être un bloc de Kimmich, ce qui est vrai.
Oui, c'est vrai.
Au final.
Mais Daniel,
tu regardes les deux équipes. L'Allemagne, pour moi, est bien supérieure.
Ah bah oui, elle est supérieure.
Mais Polo, okay. vous parliez des équipes qui ont un peu du mal avec l'adversité, qui n'arrivent pas à contrôler un match. Mais je pense que ce football-là, il est terminé. Hein.
Je suis d'accord.
Et ce football-là, il est terminé, notamment en Ligue des Champions.
On a un football de séquence. En fait.
Et on a un football de séquence. Pourquoi ? Parce qu'on a un football qui, même si le niveau global de certaines équipes, on peut considérer que les grandes nations, l'Italie, même la France, n'a plus des joueurs de classe mondiale à tous les postes, comme ça a été le cas à une époque. Mais c'est aussi parce que les adversaires sont bien meilleurs. Aujourd'hui, la Suisse est bien meilleure, le Danemark est bien meilleur qu'à une certaine époque. Même la Géorgie pose des problèmes à n'importe quelle nation européenne. Et donc, ça veut dire que sur 90 minutes, un peu à l'image de ce qu'on voit aujourd'hui dans certaines compétitions, et bah, que ce soit la Coupe du Monde ou l'Euro.
Je ne sais pas si ça tient au fait. Les Danois, ils ont toujours
proposé mais les Danois, attention, parce que les Allemands sont un peu moins forts qu'avant, mais les adverses. Si,
mais je sais pas
pour si moi, si. Les Allemands sont. C'est mon avis. C'est que les Allemands, les Français, les Portugais, en tout cas par rapport à leur grande génération, Kevin, sont peut-être Kevin, un Kevin, peu moins dominants Kevin, qu'avant, Kevin. Mais je pense aussi que les adversaires sont un peu meilleurs.
Je vais proposer une autre explication.
Ils sont moins expérimentés, ils ont moins de caractère, les joueurs.
Le quatuor offensif des Allemands ce soir, en termes techniques, les Allemands n'ont pas souvent eu ça.
Oui, en termes techniques, mais en termes de caractère.
Ah, bah donc on va.
Et l'Italie, ce sera pareil.
Ah,
mais c'est ce que je te dis, mais attention, Mais pour moi, un grand joueur, c'est le caractère. Si je te parle d'un Rui Costa, si je te parle d'un Totti, si je te parle d'un Schweinsteiger.
Le caractère, c'est ce qui va te permettre d'être consistant sur la durée.
C'est ce qui va te permettre d'écraser ton adversaire.
Là, moi, j'ai l'impression qu'on a des joueurs qui sont de plus en plus un petit peu jeunes, caractériels.
Mais c'est ce que je te dis.
Qui ne sont pas tout le temps très costauds.
Il faut pas, il y a un recruteur.
Si tu me laisses terminer, c'est bien aussi.
Vas-y.
Mais bon, qu'est-ce que tu proposes?
C'est quand même Daniel le spécialiste de ne pas laisser finir, mais vas-y.
Non, mais là, en l'occurrence,
vas-y. J'allais juste complémenter, mais vas-y.
Vas-y. Complète.
J'allais dire, tu vois, tu parlais de caractère. Il y a un recruteur qui m'a dit, il y a trois mois, il m'a dit, faut pas se tromper. Il y a une grande différence entre une équipe de joueurs de caractère et une équipe de caractériel. C'est exactement ce que tu viens de dire.
Donc, alors pour le coup, l'Italie n'entre pas du tout dans ce cas de figure-là parce que eux, ce qu'ils proposent, c'est quelque chose qui est quasiment jamais vu dans le football italien en termes quasiment de nullité, ce qu'on veut dire. Mais en revanche, les Portugais, en termes de qualité d'effectifs, ça fait des années qu'ils n'ont pas eu des joueurs aussi forts que ça en termes de technique. Les Allemands, techniquement, franchement, c'est parfait. Rudiger, c'est un super défenseur. Au milieu, t'as Kroos, t'as Kimmich à droite. J'aime beaucoup leur arrière gauche là, à Rome. Non, vraiment, c'est bien. Mais ok, là, c'est sûr que Polo doit penser ça aussi, et je le pense. En termes de caractère global, collectif, de volonté de gagner, d'écraser l'adversaire, on n'est plus. Ces joueurs-là ont un peu disparu de notre football. T'as des mecs qui arrivent, qui par séquence vont être bien, parce que aussi le football repose tellement sur l'intensité que soit tu la mets pas sur la durée, soit tu la mets par petite séquence. Le football a considérablement changé ces dernières années, on le dit pas assez.
Il faut dire aussi que la presse allemande, alors dans ces conditions, est en retard. Parce que la presse allemande, avant la rencontre, était persuadée que la National Mannschaft ne pouvait pas passer l'Espagne en quart de finale. Mais surtout, elle réclamait une augmentation drastique du niveau de jeu de la National Mannschaft. Et elle voulait voir des buts. Donc j'ai presque envie de dire à l'ancienne, d'écraser ses adversaires. Et donc ça veut dire que la presse allemande doit aussi faire son propre mea culpa sur l'évolution du football qu'elle n'a pas vu non plus. Moi, je vois des phases de jeu où les Allemands se mettent à reculer. Il y a plus de pressing sur l'adversaire. Tu as très bien dit. Les Danois ont une belle équipe, mais les Allemands sont supérieurs techniquement parlant. Ils dominent. Moi, je regarde toujours le nombre de passes faites, le nombre de passes réussies, etc. Quand il y a 2-0, il y a des moments, ils menaient 2-0 et ils commençaient à trouver le moyen de perdre le ballon alors que le 3-0 s'offrait à eux. Et donc, toutes ces choses-là font que je reste extrêmement dubitatif sur une possibilité d'aller chercher chez eux, mais tant mieux s'ils y arrivent, 7 euros 2024 et qu'ils sont toujours dans une logique d'exorciser les Coupes du Monde 2018-2022.
à part une Espagne, si elle continue d'avoir ce niveau, je vois pas pourquoi l'Allemagne serait pas candidat.
C'est l'Allemagne et
l'Espagne. Bah oui, mais ils vont s'affronter en quart. Bah,
évaluation voilà, après le match de l'Allemagne, et puis ensuite on passera à Suisse Italie. L'after est là jusqu'à 12h30. À tout de suite.
RMC, l'after foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
Il est 23h49, Kevin Diaz, Daniel Riolo est là, Paulo Breitner. Et là, on analyse la victoire de l'Allemagne face au Danemark. Qui a été l'homme du match, selon toi, Paulo?
Oh, Moussiala m'a pas l'air loin, quand même, ouais, encore une fois, dans sa rencontre.
Je pense que je le mets pas loin, ouais.
Rudiger a été impressionnant, mais par rapport à son niveau des matchs de groupe. Et puis il y a le vieux de la vieille, quoi. Neuer, il est toujours là.
Hein. Ouais, Neuer, il est toujours là.
Neuer décisif ce soir, ça c'est sûr.
Ouais, j'ai beaucoup aimé. Hein,
parce Autant il a fait des matchs bof.
Voilà, la sortie de Neuer sur Højlund en première mi-temps, sur ce piqué là où il jaillit bien dans le pied. Pour,
non, il fait un bon match. C'est par rapport à ce qu'on disait juste avant. Sur les caractères, j'ai vu passer un commentaire. Bon, il est plus là, mais c'était pendant la pub sur le chat, mais
sur YouTube.
Sur YouTube, j'ai oublié, pardon, celui qui a dit ça. Mais on est également dans un football où la grande tendance, c'est le super pouvoir de l'entraîneur, et évidemment initié par la mode Guardiola et tous les entraîneurs qui ont voulu lui ressembler. Et énormément de coachs n'aiment plus les joueurs de caractère. Ils veulent avoir des petits soldats qui respectent les schémas mis en place, mais on ne veut plus de joueurs de caractère.
Pas faux. Ben c'est pour ça qu'il y a Maradona.
Tous des enfants. Et tu sais que ça, exactement. Tu l'as même à ton niveau, Kevin. Tu l'as même au niveau où tu évolues, et même en dessous, avec tous ces coachs qui ont un boulard pas possible et qui se prennent pour les petits rois avec les joueurs. Tu fais ça. Et les joueurs de caractère disparaissent parce que ces coachs-là n'en veulent plus.
C'est pour ça qu'un Maradona n'aurait jamais réussi dans la galaxie Red Bull.
Ah oui, ça va, oui.
C'est pour moi, c'est l'exemple ultime, quoi. C'est Maradona n'aurait pas existé. Comme Rebic a échoué parce qu'il était rentré pas dans le moule de la galaxie Red Bull. Et par contre, ça veut pas dire qu'il a pas fait une belle carrière.
Ah oui, oui. Il y en a plein, comme ça. Ces coachs-là, le super pouvoir des coachs, il faudrait s'y intéresser un soir. Ouais. Ça a beaucoup. Ah voilà, il a remis Bam Bam sur les entraîneurs qui n'aiment pas les caractères. Oui, effectivement, comme Guardiola. Notamment.
Alors que eux, en général, on en a un gros, quoi.
Après, attention, parce qu'il
n'y a pas que le caractère.
Un gars comme Kevin De Bruyne, c'est un gars qui a un gros caractère. Et pourtant, il arrive à travailler avec Guardiola.
Pas toujours facile.
Ouais.
Loïc est avec nous au 32-16. Il suit l'Allemagne de près. Loïc, bonsoir.
Merci, bonsoir à tous. Merci de me faire une petite place dans votre émission. C'est cool.
Bah, écoute, c'est un plaisir.
Salut Loïc. On t'écoute,
Loïc. Tu veux parler de quel joueur, toi? On est sur l'évaluation, là.
Alors juste avant, je tiens à rappeler mon idolation. Je ne sais pas comment on dit. Je suis totalement fan de Kevin Diaz, hein, bien sûr, c'est moi qui appelle à chaque fois et qui dit que c'est le numéro 10 de l'after, n'oublie jamais.
Merci. Je croyais que t'allais dire Daniel Riolo, t'allais te tromper.
Ah, Daniel Riolo, c'est le Thomas Müller de l'after, on peut pas s'en passer.
Putain, merde, il est sur la fin, laisse-moi encore quelques années.
Non, mais tu peux servir encore, Daniel. Mais voilà, faut faire place à l'avenir et c'est Kevin Diaz.
Bref,
mis à part ça, je voulais revenir un peu sur le match. Bon, bah, après, Paulo a dit pas mal de choses qui sont assez vraies sur l'Allemagne. En général, ils se trompent pas souvent. Moi, j'ai quand même un petit.
C'est bien de le noter.
Pas un coup de gueule, mais j'ai quand même envie de. Voilà, j'ai envie de faire la place à Füllkrug. Vraiment, ça y est, Kai Havertz, on voit que c'est pas un numéro 9. On voit qu'il a du mal. Bon, là, il marque sur penalty, même si je pense que ça aurait été sympa de la donner à Musiala pour que quand même il cherche la place de meilleur buteur. Havertz, je sais pas, j'arrive pas
et
à me.
Et Polo, pourquoi oui. Il met pas Havertz sur le côté
à la place de
Leroy Sané?
Mais le truc, c'est
qu'il ça, on n'aurait plus.
Et je sais pas s'il peut le faire encore.
Non, mais en tant que deuxième numéro 10, comme.
Tu peux le faire. Tu peux faire. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le choix de Nagelsmann ce soir à la 65e minute lorsqu'il fait rentrer Füllkrug et qu'il garde Havertz. Ça te donne deux possibilités avec deux milieux excentrés. C'est des choses qui sont intéressantes parce qu'il a son 4-2-3-1 avec trois milieux offensifs. Très bien. Il le fait. Il y a différentes possibilités. Havertz en 9, ça ne fonctionne pas. Mais ça se trouve, c'est Havertz qui va faire le match de sa vie contre l'Espagne en quart. Et on dira, bah, finalement, ça marche. Moi, le problème, encore une fois, c'est ce vécu qu'on n'a pas. C'est ce vécu que je vois dans Nagelsmann lorsqu'il dit j'ai besoin absolument d'un plan B, d'un plan d'urgence au cas où. Et le cas où, c'est Füllkrug. C'est-à-dire que si Füllkrug, ça ne marche pas alors qu'il est titulaire, ben il n'a pas grand-chose derrière. Par contre, la possibilité de jouer avec deux attaquants, la possibilité, ce qu'il a fait depuis le début, de jouer avec trois milieux offensifs, là, avec Gundogan en 8-10, à la possibilité de mettre Undav, qui, moi, serait génial. Il a fait une saison avec justement l'équivalent de Füllkrug, avec Guirassy, qui a très bien fonctionné. Il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Pourquoi pas mettre Havertz sur l'aile? Mais moi, on l'a vu plusieurs fois en équipe nationale. Ça fonctionne pas des masses. Le problème, c'est que si tu décides de... Oui.
Polo, moi j'ai une question. Est-ce que c'est vraiment, vraiment inenvisageable de voir un 3-5-2 face à l'Espagne avec peut-être Emre Can ou Schlotterbeck et le retour?
Non, mais on peut le faire. Le problème, c'est que tu vas avoir un problème de place devant. C'est qui tes trois? Füllkrug, Havertz et Havertz et Moussiala?
Ouais, tu sors une Gundogan.
Tu sors une Gundogan. C'est ton capitaine, c'est compliqué.
Gundogan, il est intouchable.
C'est compliqué. Pourtant, Gundogan, on le voit pas beaucoup quand même dans le match.
Ben, c'est ça.
Mais on l'a bien vu lors de la deuxième rencontre quand même.
C'est vrai qu'il a pas fait un grand match.
Ouais, il a pas fait un grand match. D'un autre côté, on se plaignait ces dernières saisons que les Allemands se prenaient beaucoup de buts, etc. Ce soir, ils en prennent pas encore. Il y a des choses comme ça. Je suis plus estomaqué et embêté par le match contre la Suisse où j'ai retrouvé une équipe d'Allemagne mauvaise, mais pas celle d'aujourd'hui. Une équipe d'Allemagne historique qui, lorsqu'elle est embêtée, n'a pas, on va dire, l'intelligence des joueurs du sud de l'Europe de jouer de différentes façons pour essayer d'embêter. C'est-à-dire qu'elle était, c'est l'histoire, Daniel en a parlé, l'histoire du petit morceau de pierre qui est sur l'autoroute, comment on fait pour enlever le morceau de pierre, quoi. Et c'est un petit peu ça qu'il y avait contre la Suisse. Ce soir, non, ce soir, elle était au-dessus, et j'aimerais qu'elle ait ce problème, qu'elle puisse résoudre ce problème d'efficacité. Mais je ne crois pas que ce soit un problème de joueurs, en fait. Kai Havertz pourrait très bien être celui qui est la révélation de la fin de tournoi. Ça pourrait être Gundogan qui revient à son meilleur niveau. C'est quand même lui qui a joué le meilleur contre la Hongrie. C'était pas le cas forcément lors de la première rencontre, alors qu'il avait couru plus de 10 km 750. Ça a l'air de rien, mais ça permettait les équilibres. Puis moi, je rappelle, l'Écosse, c'est un match qui ne m'intéresse pas. C'est un match de qualification, c'est pas un match de l'Euro. C'est autre chose. Là, il y a plein de choses à faire. Mais, encore une fois, on est dans l'urgence, Nagelsmann est dans l'urgence, et on n'a pas ce vécu d'avoir battu l'Italie, d'avoir battu l'Angleterre, d'avoir battu telle sélection, et dont on n'est pas sûr de notre force. On est encore une équipe qui n'est pas à maturité, et on ne la verra malheureusement jamais à maturité, parce que Toni Kroos pourrait être critiqué aussi. Son troisième match contre la Suisse n'est pas bon. Ce soir, est-ce qu'il est si exceptionnel que ça? J'en suis pas persuadé. Mais si on commence à se poser les questions, tel joueur est pas à 100%, je pense qu'on peut changer au bout de moment 80% de l'équipe. Donc moi, je continue à faire confiance à Nagelsmann. Il me surprend par son discours en conf de presse. Mais je crois pas qu'on doit être dans une forme d'individualiser l'équipe en disant tel mec doit être là, tel mec, ça, c'est des choix personnels qu'on fait. Et ça se trouve, encore une fois, c'est Havertz qui va te ramener le titre à la National Match. Point barre.
Bon, à suivre. Alors sinon, l'histoire de l'orage, on joue plus côté de l'orage, ben.
Ça avait l'air un peu costaud, là.
Non, mais c'était
un
costaud. C'était pour les 12 caméras et le VAR et le hors-jeu, en fait.
En plus, il y a des trous dans le toit, hein.
Non, mais c'est.
Mais non,
il y a eu des grêlons, c'était des balles de golf, hein.
Bah oui.
Et puis je crois que c'était
un arbitre anglais qui siffle quand il pleut quand même. C'est
non,
clair.
Mais c'est pas la pluie en fait, c'est à cause des orages et de l'éventuelle foudre qu'ils ont arrêté.
Il doit y avoir quelques paratonnerres quand même au-dessus du stade, non?
Et va voir l'architecte du stade, Kevin. Arrêtez de perdre du temps à dire des bêtises quand même.
C'est toi là qui fais l'architecte du stade.
Et s'ils l'ont arrêté, c'est que à cause d'éventuelles foudres.
Le fameux principe de précaution.
Oui.
Bon, peut-être. Bon, bref.
Sinon, j'ai une petite blague. C'est pour Kevin.
Polo fait des blagues.
Vas-y.
Après le match contre la Suisse, je regardais une émission allemande pour voir un peu ce qu'ils voulaient faire, quels étaient les favoris de l'Euro, etc. Et donc on pose, alors l'Espagne pas mal, la Suisse quand même un peu allée en demi, etc. Et puis il y a Thomas Elmer qui dit, ouais quand même les Néerlandais. Et là t'as tous les anciens champions allemands qui éclatent tous de rien. Et qui éclatent tous de rien. Donc je pense que si j'aime pas beaucoup les Néerlandais, mais bon voilà, je pensais à Kevin quand j'ai vu ça parce que j'ai éclaté de rire aussi.
J'adorerais une finale Deutschland contre Netherlands, ce serait pas mal.
C'est vrai.
Ouais.
Mais ah bon. Bah là, ça t'en connais l'issue quand même.
Ah écoute, on sait jamais.
Ils jouent contre la Roumanie là.
Et alors?
Mais ils vont se faire sortir par les Roumains. Je te le dis.
Tu prends le pari?
La Roumanie, je te le dis. C'est la surprise des huitièmes.
Tu prends le pari donc.
C'est la surprise, évidemment.
Vas-y, le resto.
Et en quart, bah,
tu termines sur dans le pari tout seul, toi.
Bah, le resto, c'est rien.
On prend une fessée contre l'Autriche en quart.
Non, jamais de la vie.
Ah bon?
Non, pas deux fois contre l'Autriche.
Ah.
Après, ils sont flingués, hein. Je dis pas qu'ils sont très bons, les Pays-Bas, mais je pense qu'ils passent quand même la Roumanie.
Ouais.
Ah. Enfin, comme à chaque fois, quoi, en fait.
Voilà, tu le vois, le complexe de supériorité néerlandais, Polo? Il est chez Kevin Diaz.
C'est le football couche-culotte.
Refusé, Kevin Diaz.
Le football couche-culotte néerlandais me fait rigoler.
Entre Rotterdam et Valjvik, là.
Valvaik,
si tu veux. Bon, Polo, reste avec nous. Il faut que tu nous parles de la Suisse dans quelques instants. Johan Crochet va nous rejoindre. Je remercie Loïc au 32-16. Analyse.
Daniel nous parle de l'Italie.
De Suisse, Italie dans quelques jours.
Pardon ? Il va oser venir quand même, Johan.
Ah bah, sur juillet, après, il est en vacances, le gars. Ouais. Ah non, il est encore les Pays-Bas.
Ouais, il est les Pays-Bas.
Ah bah, bientôt, il sera en vacances.
Faut les faire.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit 30.
L'after foot, intégral euro.
RMC.
Alors, my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good?
Tu rendis compte si tu poses une question à un supporter italien que dans quelques années? Ciao, grazie ancora et congratulations pour la sua carrière.
I recoup the ball and Memphis give me a good pass after I shoot and I score.
Jusqu'à minuit 30, l'after foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là, jusqu'à minuit et demi, c'est l'after. Ensuite, ce sera la libre antenne. Tiens, j'en profite pour vous rappeler que lundi soir, nous serons à Artigues, à côté de Bordeaux, le club d'Aurélien Tchouaméni, au stade Aurélien Tchouaméni, stade qui a été renommé il y a peu, stade de la Plaine des Sports.
Il a déjà renommé. Un stade à son nom, là, c'est fort.
Ah, il a été renommé en janvier. On sera là lundi soir, Daniel Riolo sera là, coach Courbis sera là.
Est-ce que sa maman
Steve
va venir?
Steve Savidan sera là. Tony Vérel sera là.
Ah bon? Mais pourquoi il y a tous ces gens-là? Comment ça se fait?
Parce qu'ils sont dans le coin là-bas, donc ils sont avec nous. Ils sont avec nous.
Est-ce qu'elle vient?
Et il y aura France-Belgique sur écran géant. Entrée libre, venez nombreux.
Est-ce qu'elle vient la maman de Tchouaméni avec ses fameuses recettes?
Non, la famille Tchouaméni n'habite plus dans la région. Ils habitent maintenant dans la région lyonnaise.
Aïe.
Ils seront au téléphone avec nous.
D'accord. Très bien.
Voilà. La fameuse recette du Pokéball riz noir.
Ouais.
On la veut.
Moi aussi, je la voulais, mais on l'a pas. Ouais.
Ah mais elles seront au téléphone.
C'est l'occasion de dire à Daniel.
Ils sont très contents qu'on vienne dans le club de leur fils.
Alors rien à voir, enfin presque.
Oui.
Est-ce que tu sais que le FC Martigues remonte en Ligue 2?
Alors, on en a parlé l'autre soir.
Oui, mais là on parle Artigues, pas
Martigues. Oui, je sais. Voilà.
Martigues, oui, on sait, ils vont jouer au Vélodrome, tout ça, t'inquiète.
Donc là, t'as ouvert ton micro pour sortir cette saucisse là.
Oui, non, mais parce que comme Daniel.
Non, mais. T'es en train de perdre un temps.
Non, pas du tout.
La vidéo.
Ça fait longtemps que j'ai pas fait un affaire avec Daniel.
Débat de VAR pendant un quart d'heure.
Ah, tiens, faut que je dise un truc, Daniel. Faut que je dise un truc.
Tu parles à Toré à travers, dans tous les sens, pour répéter la même chose.
D'ailleurs, faut que je dise un truc, c'est que souvent sur les réseaux sociaux, on me dit, ah, mais on te voit plus trop dans l'after avec Daniel et Gilbert, t'es fâché avec Daniel ou quoi? Je dis, non, pas du tout.
Je te fais le week-end.
Je suis pas du tout fâché avec Daniel, c'est juste qu'il veut pas travailler le week-end. On a ce fameux jingle où il dit qu'il ne fera jamais les afters du samedi soir.
T'as vu le nombre de fois où je suis venu.
Et là, il est venu un peu plus parce qu'il y avait le PSG.
Et les Bleus aussi.
Polo Breitner est toujours avec nous. Et Johan Crochet nous rejoint. Johan, bonsoir.
Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Bon, Johan, j'imagine que évidemment pour toi, en plus j'essaye
de gagner du temps, Johan, pour
évidemment tes afters récents. Ce qui s'est passé pour l'Italie ce soir n'est absolument pas une surprise.
Non, sur le résultat global, le fait de sortir en huitième, pas vraiment, pour ceux qui écoutent Génération After, mais par contre sur les prestations générales, partant de ce soir jusqu'au premier match contre l'Albanie, c'est extrêmement décevant. Je pense qu'on était assez peu nombreux à imaginer qu'il pouvait y avoir une telle débandade et une telle honte, un tel déshonneur, comme le disent les Italiens ce soir. Parce que tu as le sentiment d'être allé en Allemagne. Oui, tu es allé en Allemagne. Tu t'es présenté au stade, mais tu n'as jamais été sur le terrain. Et ça, c'est extrêmement frustrant, parce qu'on revient un peu à ce qu'on disait avec Daniel le soir de la défaite contre l'Espagne. Quand bien même tu n'as plus les fameux talents d'une fois, et encore une fois, moi ce soir, j'ai absolument pas envie de parler de talent, de manque de talent. On n'a plus Totti, on n'a plus Nesta, on n'a plus Maldini, etc. Parce que les Suisses ne les ont jamais eus. Ces joueurs-là. Donc c'est inaudible comme discours ce soir. Ça serait hallucinant de parler de ça.
Et moi j'ai peur. Et j'ai peur qu'on en fasse trop là-dessus.
Ouais. Ah ouais, tout à fait. Mais encore une fois, enfin pas toi.
Ça va être l'explication. J'ai l'impression un peu tarte à la crème en Italie qui va m'énerver.
Exactement. Ils vont encore se tromper de débat, bien évidemment, sûr. Parce que comme ils ont fait en 2018, comme ils ont fait en 2022. D'ailleurs, parce que et puis de toute façon, ça dure.
De toute façon, je trouve que la qualité de l'analyse a beaucoup baissé en Italie ces dernières années.
Mais n'oublions pas que
dans les médias, tout ça, ça a beaucoup baissé.
N'oublions pas que Capello a quand même expliqué que Di Marco lui rappelait Roberto Carlos et que Luigi Di Biagio, qui a été quand même sélectionneur des espoirs et sélectionneur intérimaire de la Nationale, nous a expliqué que Barella, c'est un mix entre Toni Kroos et Kevin De Bruyne. Ça, c'est pour le degré d'analyse.
Mais messieurs, moi, j'ai une question quand même pour vous, parce que moi, j'avoue faire partie de ceux qui pensent que quand même cette équipe d'Italie est... Moi, pour moi, c'est pas une question de forcément de caractère ou d'envie, parce que quand tu... Alors, c'est pas un tweet, mais je crois que c'est sur Instagram que t'as mis ça, mais c'était assez juste. C'est vrai qu'ils mettent beaucoup d'envie sur l'hymne et peut-être pas assez sur le terrain, mais je suis pas sûr que ce soit une question d'envie sur le terrain. J'ai plutôt l'impression
c'était bien quand ils faisaient les deux.
C'est une question de qualité aussi pour moi. Le fait de pouvoir retranscrire cette énergie et cette volonté de représenter ton pays au mieux avec la pression que ça engendre, c'est pour moi une qualité. C'est une qualité. Et aujourd'hui, cette équipe.
Mais c'est
donc
pas une qualité technique.
Ouais, mais c'est, ça reste quand même une qualité. Pour moi, cette équipe, elle manque de qualité, ils ont quand même un bon entraîneur, Daniel. Entraîneur.
À un moment, il faut pas partir dans des explications, alambiquées, philosophiques.
Ouais. C'est pas alambiqué.
Chercher des trucs compliqués et tout. Il faut rester lucide, tranquille. En Italie, aujourd'hui, que le football soit moins fort qu'à une certaine époque, c'est sûr.
Qui est titulaire dans un grand club?
Que t'es pas des stars internationales, très bien. Tu as quand même l'Inter qui était en finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Tu as eu l'Atalanta qui a gagné l'Europa League cette année. Je dis pas que ça suffit à faire un mix de bons joueurs, mais si on prend l'histoire de la sélection, tu as offert un jeu pourri en 94, alors que t'avais les joueurs des meilleures équipes du monde et t'as offert un jeu pourri, t'es quand même allé en finale. En 2016, t'avais 70% de l'équipe.
Personne.
C'était des seconds couteaux et t'as offert un spectacle tout à fait honorable en ne perdant qu'au péno contre l'Allemagne en quart. Il y a de tout dans l'histoire des sélections italiennes. Jamais, je le redis, je le dis depuis le début de la compétition, je n'ai jamais vu une équipe aussi mauvaise. Je n'ai jamais vu des joueurs mettre maillot.
Parce qu'elle a renoncé depuis le départ.
Dans cet euro, elle est arrivée. Elle a battu l'Albanie en jouant une mi-temps. Et derrière, elle n'a plus rien fait de bon. Il n'y a pas eu 3 passes de suite contre l'Espagne. Il n'y a pas eu 3 passes de suite contre la Croatie. Le but à la dernière minute a donné une sorte d'excitation dans le pays aux supporters de cette sélection en disant tiens, et si ça se réveillait. Tu arrives contre les Suisses, ils ont beau avoir une belle équipe, les Suisses, il y a aucun problème avec ça, mais le visage que tu proposes, le jeu que d'abord il y en a pas de jeu, mais une idée même de jeu, il y en a pas non plus. Et quand tu as aussi peu de caractère que sur le terrain, tu ne fais pas la chose essentielle qui est de courir, d'essayer de te battre pour défendre tes couleurs, évidemment que Spalletti doit dégager, c'est le premier responsable. Quand tes joueurs affichent un tel niveau de déshonneur, d'insulte à l'histoire de cette sélection, il y a un premier responsable, sélectionneur, il doit dégager. Ces joueurs-là, je suis désolé, ils sont pas mauvais et tu peux perdre contre la Suisse, mais afficher un tel niveau. Il y a des mecs qui sont, même si c'est des seconds couteaux, il y a quand même des joueurs pour ne pas te faire marcher dessus comme tu l'as fait là.
Mais si je peux te répondre, pourquoi je te disais ça? C'est quand même une sélection qui, sur les 10 dernières années, a raté des grands championnats.
Oui.
Donc c'est pas la première fois que vous êtes catastrophique.
Non.
D'accord.
Ce que tu dis est faux.
Et vous avez quand même raté des grands championnats, quand même.
Mais ça veut rien dire, ça.
Bah oui, mais quand même, tu te qualifies pas pour une Coupe du Monde. C'est quand même un gros. Et c'est pas la.
Oui, mais
c'est
tu les as vus, Kevin, les matchs.
J'ai vu le match contre la Suède.
Non, la Suède, c'est 2017. Tu veux remonter si loin.
Je parle des 10 dernières années.
Oui.
Où il y a quand même eu des générations qui ne se sont pas qualifiées pour des grandes compétitions. Ça n'arrivait pas avant. On est d'accord.
Et tu as quand même eu l'Euro il y a 3 ans.
Et il y a eu l'Euro. Est-ce que l'euro n'est pas l'anomalie dans ces 10 dernières années?
Non, l'euro c'est...
Ah, c'est une forme d'anomalie quand même.
L'euro,
il gagne au pénalty à l'arrache.
L'euro, c'est ce que tu as vu très souvent dans l'histoire du foot italien, à savoir une équipe, un gros collectif,
pour moi, c'est analogue.
Quelques tauliers. Mais c'est ce que tu as vu en 70. Est-ce que tu as...
Non, mais je parle sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années.
Ce que tu as vu quand
je peux en placer une ou...
dans l'histoire du foot italien, tu as eu plein de fois des sélections, tu ne savais pas ce qu'elles pouvaient donner. Il n'y avait pas de joueurs a priori extraordinaires, mais ils le sont devenus ensuite, ou ils ne le sont pas devenus, ou ils ont fait des one-shots. Mais il y avait une forme de caractère, de collectif global. Il n'y a jamais eu de mecs qui t'ont collé des tonnes de buts. Si tu prends le plus grand buteur de la sélection italienne, comparé aux autres sélections, tu vas flipper.
Mais dans cette équipe,
il y avait un collectif, un entraîneur, non, mais je voudrais une aventure juste en commune. Parce que là, il n'y a rien. C'est le néant.
Vas-y, Johan.
Oui, d'accord.
Bon, déjà, l'Italie ne s'est pas qualifiée à toutes les Coupes du Monde et à tous les Euros, déjà, première chose. Parce que, par exemple, si on prend 1960, 64, 72, 76, 84, 92, l'Italie n'y était pas, Kevin. Donc, c'est pas la première fois qu'ils ratent des grands championnats d'Europe ou des grandes compétitions.
Enfin, sur 10 ans, ils en ont raté quelques-uns, quand même.
Deuxième élément qui est important, c'est que lors du dernier mondial, avant de dire qu'ils ont été ridicules, vu que c'est ce que tu as dit, il faut savoir que la qualification ne se fait pas pour deux pénalties de Jorginho ratées contre la Suisse, sinon tu es à la Coupe du Monde.
Alors, mais
qu'est-ce que tu aurais fait, c'est un autre débat. Oui, mais enfin, quand ça joue à 3 cm, moi, j'ai jamais considéré que les résultats faisaient tout dans le football.
Ouais, mais la victoire en 2021,
on analyse aussi un peu les prestations. Ouais, ça serait pas mal de pouvoir en placer une. Ensuite, ce soir, ce qu'il faut noter, c'est que sur les questions de talent, pour moi, c'est inaudible parce que quand tu as un Bastoni qui fait une passe à 10 mètres qui va en touche, quand tu as un Di Lorenzo qui ne peut pas contrôler un ballon parce qu'il glisse le long de la touche et la passe va en touche, quand tu as un joueur qui ferme les yeux et qui ne regarde pas où il envoie le ballon, tout ça explique simplement pourquoi tu n'as pas été en capacité de te créer des occasions ce soir. Mais on peut reprendre tous les matchs. On peut reprendre celui contre la Croatie, celui contre l'Espagne. Ce n'est pas une faillite de talent, encore que. On peut discuter évidemment que cette génération-là est moins talentueuse que beaucoup d'autres. C'est simplement aussi que cette équipe-là n'a aucun caractère, n'a aucun leader, que Spalletti n'a absolument pas réussi à rentrer dans la tête de ses joueurs.
Il n'a rien apporté.
Moi, je suis pas persuadé que faire partir Spalletti est une bonne nouvelle, ou une bonne idée. J'en suis pas persuadé. Effectivement, lui te dira que il arrivait, il avait pas le temps de préparer les choses, qu'il y avait l'urgence du résultat, et tout ça est effectivement vrai. Néanmoins, je trouve que lui-même a été perdu dans ce mondial. Il n'a pas aidé les joueurs, et les joueurs, je pense aussi,
qui ont le ressenti. Moi, je pense qu'il peut pas se relever dans tel échec. Tu peux pas te relever.
Il y a quatre matchs dans cet Euro. Quatre fois, tu es mené au score. Il y a trois schémas tactiques différents. Tu n'as pas fait un match dans le même schéma tactique, avec en plus beaucoup de rotation dans les joueurs. Et avant le match, c'est ce que je disais hier soir à l'antenne, avant le match contre donc aujourd'hui la Suisse, il nous a quand même expliqué on va jouer dans une défense à 4 et donc Gianluca Mancini jouera parce que c'est quand même mieux dans ce système d'avoir un droitier et un gaucher. Il a fait deux matchs en 4-4-2 avec une charnière de deux gauchers. Il a été incohérent du début à la fin.
Toutes ces explications,
après l'Espagne, il parle de fraîcheur physique.
Ce soir,
rendez-vous compte. Ce soir, rendez-vous compte quand même qu'il nous explique que la fin du championnat italien a été un souci pour la sélection parce que l'Inter a gagné le championnat trop tôt. Et donc, il y a des joueurs qui étaient pas en parfaite
tout
condition
physique. Tout est nul dans ce qu'il dit. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il parte parce qu'il est complètement à la ramasse. Il est perdu.
Moi,
j'ai eu l'impression d'avoir un fou face à moi.
Et deuxième chose, il nous explique aussi ce soir que le deuxième but a coupé les jambes de l'Italie. Mais elles étaient coupées dès le début du match, les jambes.
Mais il y avait
c'est
rien.
Pas le deuxième
il y
but qui a changé jambes, quoi que ce soit. Ils ont rien fait en première mi-temps.
Il y a eu une indignité, c'était horrible. Moi, je sais pas, j'ai pas vu encore les commentaires là-bas, j'ai pas eu tellement le temps de lire.
Mais c'est terrible, c'est désastre, c'est la honte.
Oui, mais
c'est tout ça.
Derrière le désastre, moi, j'ai peur de leurs explications.
Mais il y en a pas d'explication. Il y en a pas d'explication. Et Daniel, tu sais comme moi que ça va durer jusqu'au 15 juillet.
Une honte par rapport à l'histoire du football en Italie.
Mais c'est ce que j'ai dit, moi, c'est ce que je dis depuis le deuxième match. J'ai jamais vu ça.
Je remercie Daniel de recadrer l'histoire des nations au niveau du football parce que c'est super important. On ne peut pas expliquer les échecs de l'Allemagne en 2018, en 2022 si on ne comprend pas toute l'histoire de la sélection allemande. C'est pareil pour l'Italie et on sait ce que représente l'Italie en Allemagne. Et je reviens à l'émission que j'ai vue après la Suisse où il y a Marcus Babbel qui était là. Donc le commentateur lui dit mais tu penses quoi de l'Italie? Et le mec il dit je suis choqué. Parce que, en fait, quand il dit je suis choqué avec ce que représente l'Italie pour l'Allemagne, qui est la bête noire. Mmh. Et il dit, on n'a pas le droit de jouer comme ça. Il n'était pas là. Moi, j'ai dit, sur mon compte Twitter que c'était des fantômes ce soir. Les Suisses se sont amusés. Évidemment, côté Suisse, c'est l'une des plus grandes performances de l'histoire de la Suisse. Si on voit l'histoire longue, pareil. Mais faut-il encore avoir un adversaire ce soir? Et les Allemands se disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce que c'est que cette Italie-là? Et que je comprends très bien Roland, qui a, je crois, des origines italiennes, qui disait, mais c'est honteux. C'est-à-dire que c'est honteux au nom. Au nom de l'histoire de ce que représente cette sélection. Tu ne peux pas faire ça. Donc, et ça, c'est l'exigence que les gens ne comprennent pas, que là, beaucoup de supporters de l'équipe de France ne comprennent pas quand ils sont devenus champions du monde de 98, qu'ils comprennent pas parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer cette histoire, pourquoi c'est comme ça, etc.
Oui, mais Paulo, et... là où ça devient inquiétant, c'est que c'est quand les gens sur place, et moi, je suis assez inquiet par l'évolution culturelle.
C'est une exigence de façade, en fait.
Et en Italie, je trouve que ça fait quelques années maintenant que les analyses, les bilans qu'on tire, les explications aux échecs, c'est pas bon. Et ça m'inquiète. Je vais voir comment ils vont analyser ça, mais quand j'entends Spalletti parler, genre, en d'autres temps, on aurait dit, tu peux pas rester à la tête d'une sélection parce que le visage qu'elle a présenté,
les gars, il nous reste
c'est le visage le plus honteux de l'histoire du football italien.
Non. Il y a l'équipe de France, il y a plein d'infos. Non, mais pour Kevin, non. Et on a, franchement, je te jure, on n'arrive pas à tout faire. Parce qu'il faut quand même que Polo puisse dire un mot de la Suisse. Ah, faut quand même, c'est normal.
Je viens de te le dire.
Ah, tu l'as dit, alors, alors on dit plus rien.
La seule question que j'ai à poser, moi, je ne remets pas du tout en question l'histoire de l'Italie. Au contraire, quand je regarde l'histoire de l'Italie, en tout cas, moi qui suis le foot depuis les années 90, de très près, quand je vois dans cette équipe d'Italie titulaire, et j'en ai parlé avec Johan une fois, El Shaarawy en huitième de finale d'un Euro en 2024, Cristante, Scamacca ou Mancini, vous pouvez me parler de ce que vous voulez. Il y a un moment, les faits sont là. C'est des joueurs de troisième zone européenne, c'est tout.
Alors le seul pour lequel
ça fait quand même quatre joueurs là.
Le seul pour lequel tu as totalement raison, c'est El Shaarawy. Je n'arrive pas à comprendre.
Je comprends pas.
Qu'est-ce qu'on peut espérer avec un type
je comprends pas. Titulaire en huitième de finale, je comprends pas.
Parce que ce gars-là fait là. Pour les autres, c'est des mecs qui dans un autre contexte peuvent être tout à fait performants. On va en revenir à ce qu'on a dit sur.
Deux qui ont fait quatre demi-finales européennes
sur le visage présenté cette sélection, c'est totalement, je le répète, c'est même choquant. C'est pas anormal ou quoi, c'est choquant par rapport à l'histoire de cette sélection. El Shaarawy, tu as parfaitement raison. Je ne sais pas par quel mystère ce gars peut être encore dans le groupe Italie et peut être sur le terrain.
Là, ça, mais c'est vraiment pas le plus choquant des 26 de Spalletti, hein, El Shaarawy. Hein.
Ouais, mais bon.
Vraiment, parce que dans le genre couteau suisse.
Je vois pas ce qu'il fait là.
Dans le genre couteau suisse, il est utile, mais Cristante et Fagioli qui a joué 10 minutes cette saison. Il y en a beaucoup d'autres sur lesquels, et d'ailleurs, entre parenthèses, il a quand même pris 26 joueurs avec une très forte concentration de joueurs pour jouer dans une défense à 3. Il a fait un match sur 4 avec une défense à 3.
Et c'est pour ça que je te dis que Spalletti peut pas rester. Ce qu'il a fait est absolument catastrophique.
Merci les gars!
Merci. Ciao.
On se retrouve très vite, évidemment. Johan, il a encore les Pays-Bas dans le paysage. Et puis Polo, lui, pour l'instant, il est sur un sans faute.
Il est au top.
Dans un instant, l'équipe de France au programme, plus le Mercato. Et ensuite, ce sera la libre antenne de l'After. À tout de suite.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô, patron, c'est les rois.
Lidl ?
Ah oui, les rois de la bicyclette cet été sur les routes de France.
Comment ça ? Tu dérailles ?
Ah oh non, patron, ça roule. Lidl est co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
Quoi ? Lidl co-sponsor de l'équipe Lidl Trek ? Où j'en perds les pédales ?
Ah ça, question sponsoring, ils en connaissent un rayon.
Là, t'as intérêt à mettre la pédale douce, hein. T'es mal, hein. Et tu l'auras pas, Béo. Volé.
Lidl, co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
RMC, jusqu'à minuit 30. L'After Foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 18, Kevin Diaz est là, Daniel Riolo également. L'équipe de France au programme avant de parler Mercato dans quelques instants. Parce que nos envoyés spéciaux, nos reporters sur place, nous annoncent qu'après le 4-3-3, Didier Deschamps va passer au 4-4-2 à plat ou 4-4-2 en losange, fortement envisagé pour le match face à la Belgique.
C'est quand même un signe que ça va pas fort.
Ah, et disons,
quand tu changes aussi souvent, que tu cherches tes formules, que tu sais pas tellement où tu vas et ça veut d'abord dire que t'es pas satisfait de ce que tu as vu depuis le début de la compétition et par conséquent que ça va pas fort quand même.
Surtout avant un huitième de finale d'un euro.
Mais pourquoi ?
Si vous vous rappelez de France-Suisse.
À cause du nonos, son fameux nonos. Ce qu'il a dit, vous avez un nonos.
Nonos.
Griezmann, t'as pas entendu ça ? T'as pas suivi ? Hier, il a fait son Deschamps, il a fait « Ah ben ça y est, vous avez un nonos arrangé avec Griezmann ben, ». En fait, c'est son nonos à lui, puisque Griezmann, en fait, c'est pour Griezmann qu'il va changer le système.
Mm-hmm. Oui.
C'est parce qu'il ne veut pas. Non, parce qu'en fait, pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas enlever un des trois, Kanté, Tchouaméni, Rabiot. Il veut mettre Griezmann,
Mais
enfin, et là, donc du coup, pour il va jouer en Losange sans doute avec Mbappé et Thuram. C'est non, ça la tendance aujourd'hui.
On va arriver à l'équipe qu'on a annoncé il y a très longtemps.
En mode France 98.
En mode Deschamps, Rabiot qui va prendre le couloir. Il y aura Griezmann et deux attaquants. Toi tu dis Thuram Mbappé.
Oui, c'est pas moi qui le dis. Mais moi je pense Sokins quoi en l'occurrence.
Et pas Dembélé. Oui, bah alors donc parce que Thuram travaille plus.
Non, et puis Thuram est meilleur à deux.
Il y aura que Mbappé seul.
Mais Thuram est meilleur à deux en plus.
En plus.
Donc moi je l'avais dit il y a une dizaine de jours dans l'after, moi je pense que
même si
c'est un système qui est très difficile à animer et que Didier Deschamps, avec tout le respect que j'ai pour lui, je suis pas sûr que ce soit celui qui anime le mieux un système qu'il maîtrise moins, et on l'a vu dans son 3-5-2 contre la Suisse en 2021. Mais en tout
l'animation,
cas
l'animation, s'il s'en fout de l'animation. Kevin.
Oui, non mais je veux dire en tout cas lui, s'il
c'est
veut
pas
mettre
un problème l'animation.
S'il veut faire un
l'animation,
peu le système,
c'est au spectacle, c'est au cirque, c'est où tu veux. Il y a pas d'animation.
Voilà, t'as qu'à zapper, il a dit Deschamps, t'es pas content, tu zappes.
Il y a pas d'animation.
il y a pas
de travail d'animation.
C'est ses entraînements avec trois équipes là, trois jours d'un match important. C'est trois équipes, on fait un tournoi.
C'est une barre de fer, Tu sais ce que c'est toi au poker.
Ouais. Voilà, exactement.
Tu barres de fer, c'est le verrou.
Voilà,
du verrou.
Je trouve que c'est un compliment. Et d'ailleurs.
Pas pour le foot alors.
Non, pas pour le foot. Non, mais après lui, donc il va jouer à 4. Bon, à 4, en 4-4-2 en losange avec 3 numéros 6. Un peu
je sais pas si y aura losange ou pas.
Si, en losange, j'avais un peu. Mais si, un peu en mode équipe de France 98. 3 milieux de terrain récupérateurs, mais des joueurs qui peuvent se projeter. Un Kanté, un peu N'Golo Kanté, un peu Emmanuel Petit, Rabiot aussi.
Dis un 4-3-1-2, et puis voilà.
Un 4-3-1-2 avec un Griezmann un peu plus libre. Et ce qui permet aussi à Thuram et à Kylian Mbappé.
Les trois limites alignées.
Voilà. Mais mais t'auras un Griezmann un peu devant et t'auras Thuram dans ses meilleures conditions avec un autre attaquant et Mbappé aussi dans des meilleures conditions
c'est
avec
qui,
un
attaquant. Rabiot, c'est petit.
Rabiot, voilà. Makelele.
C'est Deschamps et.
Voilà, pas Makelele, pardon.
Et Carambeu, c'est Tchouaméni.
Voilà, exactement.
Voilà, et après t'as Griezmann.
Non, c'est plutôt Tchouaméni, c'est Deschamps. Et du coup, Carambeu qui se projetait un peu plus, c'est Kanté.
T'as raison.
Après t'as Zidane.
T'as Zidane, c'est Griezmann. Et puis.
T'as Henri et.
Et puis t'as mieux que Guivarch, t'as Mbappé.
Ouais. Non, t'as Henri pour Mbappé.
Ah oui.
Avant qu'il se blesse.
En 98, oui.
Si, en 98, si, il est titulaire.
Non, mais j'avais l'image de la finale.
Ouais, la finale, non.
Bon, en tout cas, Deschamps a beaucoup discuté aujourd'hui avec Giroud, paraît-il, nous disent dans les spéciaux. Alors Giroud, qui n'avait pas les pires stats avant de venir à l'Euro, hein, pas pire que Thuram, en tout cas, par exemple. Voilà. Et puis alors, information du jour, révolution.
Mais Giroud, il ne peut plus bosser autant. Si tu ne peux pas bosser pour Deschamps, il y a un problème. Mais
Giroud, surtout, il a un problème physique, là. Parce que finalement, la blessure qu'il a eue au premier match, n'est pas si anodine que ça.
Donc si tu n'es pas capable de descendre, pousser des wagonnets au fond de la mine, tu ne peux pas être un joueur de Deschamps, sauf Mbappé. Parce que lui, il ne pousse pas les wagonnets.
Je disais donc.
Lui, il ne se salit pas les mains.
Lui, il s'assoit sur le wagonnet.
Voilà, il dit aux hôtels, vous poussez.
Je disais donc, révolution en équipe de France. C'est Ibrahima Konaté qui l'a révélé. On bosse les tirs au but.
C'est vrai.
Un truc de ouf.
C'est pas vrai.
Enfin!
Si tu vas au pénal,
après deux finales
Belgique,
de Coupe du Monde perdues, après l'Euro, les dernières Euros.
Ça va passer contre les Belges au pénal.
Donc, il a dit, eh oui, on travaille les tirs au but.
Est-ce qu'il aurait écouté le DTN?
Konaté. Bah oui, finalement.
Donc, si c'est
finalement,
ça.
Finalement, il a écouté le DTN.
Donc, si c'est ça, ça veut dire que c'est mytho que Deschamps nous aurait mitonné sur l'effet que ça serve à rien, alors qu'il a changé.
Non, mais surtout qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a un journaliste anglais qui s'est amusé à reposter Deschamps, en fait, la finale de la Coupe du Monde, le moment où il faut choisir les tireurs. Et en fait, il est largué. Tu le vois, en fait, il se tourne vers tout le monde. Il dit toi.
Non, mais en fait, il propose.
Mais c'est complètement fou.
Bah oui, mais voilà, il propose. Il dit, t'as envie d'y aller ou t'as pas envie d'y aller.
Non, mais c'est pas la finale de Coupe Loisir du Média Football Club. Même nous, on prévoit les tireurs.
Ce qui est fou, c'est que non seulement tu prévois les tireurs, tu peux aussi prévoir le fait que ton gardien ramasse le ballon dans le but pour le donner au prochain tireur de son équipe pour pas qu'il y ait de déconcentration des autres.
Hubert Fournier avait raison.
Et il y a aussi une chose, et je le dis très rapidement, il y a une chose que j'ai découvert, c'est-à-dire que les joueurs qui prennent, tu sais, le temps d'attente avant de tirer ton pénalty. Mmh. Plus le temps d'attente est long, plus tu as de chances de marquer. C'est-à-dire que tu as le temps de prendre le temps littéralement. Mmh. Et ensuite, il y a une étude qui montre que tous ceux qui font plus de 3 secondes après avoir posé le ballon pour tirer ont plus de chances de marquer que ceux qui se précipitent vers l'avant. Donc il y a plein d'études aujourd'hui qui sont des trucs neurologiques et tout. Je vois Oussem là-bas qui sourit parce que Oussem, lui, c'est l'adepte du football vrai, le football de la cité. Mais il y a un moment, toutes ces études, elles servent quand même pour certains pays en tout cas.
Konaté qui a eu par ailleurs cette punchline, si Ibou était à 100%, il jouerait. Oui. C'est bon ça.
Il est bon Konaté.
D'ailleurs, il a très bien parlé sur les législatives et je l'ai trouvé assez juste, moi.
On n'a pas le droit d'en parler.
On n'a pas le droit d'en parler.
Non, on n'a pas le droit d'en parler. Ok. C'est les règles de
l'ARCOP. Voilà. Je savais que t'allais tomber dans le panneau. Mm.
Deux trois infos pour finir. D'abord sur l'euro, une considération un peu plus générale. L'UEFA communique aujourd'hui record d'audience. On attend 5 milliards de téléspectateurs en tout à l'euro. Ce serait un record. Et puis l'UEFA se félicite de son plan sociétal. La phase de groupe a entraîné une diminution de 75% du nombre de vols effectués par les équipes et un plus grand nombre d'équipes utilisent le bus et le train. Bah, évidemment, le dernier euro, il était dans 15 pays, donc c'est pas trop compliqué de faire mieux quand même. Non ?
Ah oui, c'est sûr.
Bon voilà. Maintenant, on va passer un peu à notre football français parce qu'il y a de l'actu aujourd'hui. Déjà, actu PSG. Vous dire que Sergio Rico ne sera pas prolongé.
Oh. Oui.
Fin de contrat. Voilà. Bon, il a eu son accident. Alors peut-être certains pourront considérer.
Oui, bah, c'est logique.
Le PSG dans un geste classe aurait pu lui dire, écoute, vu que tu reviens.
Ah, oui, geste classe, c'est pas de garder des mecs sous contrat alors qu'ils ne peuvent plus jouer, malheureusement.
C'est comme ça.
Et là, t'as deux gardiens puisque t'as Donnarumma et le Russe qui est arrivé là.
En directeur sportif.
Ils ont aussi dégagé le gardien qui jouait jamais là.
Oui, le Tellier.
En directeur sportif, je leur ai proposé d'être ambassadeur du club.
Qui ça? Rico.
Bah oui. Ambassadeur du club.
Oui, mais il veut peut-être encore jouer ailleurs, Rico.
Je sais pas.
Il est ambassadeur, c'est un bidon qui ne sert jamais à rien. Ambassadeur.
Bon, c'est pour.
Ambassadeur, quand tu ne sais pas quoi faire d'un ancien qui est là, tu mets ambassadeur.
Exactement.
À un moment, Paoletta est ambassadeur. Je ne sais pas s'il est toujours ambassadeur.
Ambassadeur, c'est t'ouvres le champagne en loge pour les invités.
Bref. Alors, par ailleurs, au PSG, on a refusé les Jeux Olympiques à Zaïre Emery et Barcola, mais on a dit oui à Arnaud Tenas. Lui, il est autorisé.
Oui, il est troisième gardien.
À faire les Jeux avec l'Espagne.
Oui, ça ne mange pas de pain, il peut y aller.
Voilà.
Tu sais, c'est les cadeaux, quand ça mange pas de pain, tu les fais.
Voilà.
Là, j'ai un vieux truc au fond de l'armoire qui sert à rien, vas-y, prends-le.
Sinon, au niveau mercato, Varane pourrait signer à Côme, club qui monte en Serie A.
Mais Varane, il a plus de genoux.
Oui, bah, Côme, apparemment, ils sont assez confiants.
S'il passe les tests médicaux, c'est bien, mais le pauvre Varane, il a plus. Parce que Varane,
tu sais. Il est libre.
Mais Varane, il a été question de qu'il revienne à Lens aussi. Lens s'était intéressé pour qu'il revienne. Mais quand il passe les examens, enfin, il n'a plus de genoux.
Ouais. En tout cas, moi, comme j'y vais.
Hein. Oui, mais toi, tu vas en vacances, au bord du lac.
Extraordinaire.
Même l'hiver, par exemple. Tu vois, l'hiver, ça fait froid, c'est humide et tout.
Ouais, ouais, l'hiver, c'est humide et tout. Mais après, quand
c'est printemps, l'hiver, c'est top.
Ouais, mais bon, quand même.
L'hiver, c'est souvent humide un peu partout.
L'hiver, ouais. Il ne doit pas être très, très long non plus là-bas, si.
Ouais, 3-4 mois. Ça dure un peu quand même.
Ah ouais.
T'es en altitude un peu.
Ouais, c'est vrai.
Tu sais que Zanetti, quand il joue à l'Inter, il a joué à l'Inter comme Zanetti 20 ans.
Il habitait à Côme.
Longtemps.
Il habitait à Côme.
Mais non, ça, c'est pas loin. Un coup
oui,
de
parce qu'en fait, le centre d'entraînement de l'Inter est plus proche de Côme que de Milan.
Exactement.
Ah bon?
Oui.
Ouais. Ah, je savais pas du tout.
Ouais. Bon voilà, c'est un petit truc dont on se fout un peu, mais je
voulais bon vous signaler ça.
Et puis alors, les supporters lillois sont en colère. Pour une raison assez simple, c'est qu'il y a un match amical contre la Gantoise.
Ah oui, dis donc, on les a pas laissés à l'Escastanier.
Bah, en fait, c'est les Belges. C'est les Belges. On dit non. Match à risque, pas de Lillois, on n'en veut pas.
Bah évidemment.
Ah mais les Belges, en fait, ils anticipent peut-être, ils se disent, vas-y, avoir des problèmes là.
Bah, ils anticipent qu'ils allaient se cartonner la gueule, donc on leur a dit de pas venir, c'est pas
pour
logique.
Pour le coup, c'est vraiment à côté en plus.
Oui, mais je te dis pas ce que ça aurait fait.
Je sais pas, s'il y a un différent entre les supporters de la Gantoise et les.
Voilà, hop, un coup de bière et derrière des barres de fer dans la gueule et c'était réglé.
Surtout avec Julien Cazard au milieu.
Je sais pas.
Julien Cazard, c'est là.
Avec ses environnements, il aime bien cette partie de l'Europe.
T'as passé une bonne après-midi?
Bah pas trop, non.
Après, franchement, tu le savais, c'était l'équipe d'Italie la plus nulle.
Ah, ouais, mais à ce point-là, c'est dur. Hein.
Le meilleur moment italien du jour, c'était les images de Florence de drone
sur le Tour de France. Magnifique, voilà, la Toscane.
Ça, c'était le seul moment italien intéressant du jour.
Écoute, après,
et l'hymne, quand même.
Ouais, bon, il reste Yannick Sinner. La finale, le 14. 15h.
Les seuls espoirs.
Pour Central.
Quand l'Italie en est à tout miser sur le tennis, c'est que le monde a changé.
Non, c'est important quand même.
Belle génération. Oui, mais avant, t'avais Potito Starace, puis tu rêvais d'être 50e, et puis c'est déjà pas mal.
Ah, t'as le numéro 1 mondial.
Bah ouais, j'ai dit voilà, mais c'est que le monde
bouche,
a changé.
Hein, on fait pas la fine bouche.
Le monde a changé.
Le monde a changé. Non, c'est important le tennis quand même.
Merci Daniel, merci Kevin.
Moi, je prends mes études plus sur ton fils que sur les autres, moi.
Vous serez là demain soir. C'est la Libre Antenne. Il y a quoi au programme de la Libre Antenne ?
Rien, c'est le principe.
J'attendais ça comme réponse.
Exactement. Moi, je pense qu'il y a un débat qui s'impose immédiatement pour commencer la Libre Antenne. C'est la qualité des crèmes solaires utilisées par Julien Cazard.
Oui. Alors, n'a pas trop fonctionné.
Fait cueillir à froid.
Je vois que là, il y a
un problème.
Il y a eu un problème. Tout est tombé sur le nez. Je ne sais pas quel. Il a pris un 10.
Il a rien mis.
J'ai eu 8 mois de mois de novembre à Paris. Je suis allé à Montpellier. J'ai eu une heure de soleil, ça m'a tué.
T'as tout envoyé.
Tu sais, le vampire qui. On a ouvert le rideau, tu vois. Le vampire à qui on a ouvert le rideau. Le
soleil, tu les as pas enlevés.
Alors,
Par contre, on voit la trace des lunettes. On dirait qu'il y a bien du style, mec.
On peut même donner la marque, là.
Ah, mais j'ai fait un genre de ski.
Donc, faites un débat sur les meilleures crèmes.
On fera ça. Autre monde de ça.
Là, on va passer la Biafine.
Crème solaire, c'est très important.
Magazine que choisir, enfin spécial crème solaire. Non, je suis tombé dessus cet après-midi, je vous le dis.
D'accord.
Et donc,
là-dessus, très
bien. Moi, j'ai ma crème solaire à laquelle je suis fidèle depuis des années.
Il y a une crème en particulier que tu utilises, toi ?
Je suis au point là-dessus. Alors, justement, il faut savoir que même les très grandes marques. En fait, ce qu'il y a à l'intérieur du produit, c'est il y a beaucoup de marketing.
D'accord.
On peut trouver.
Tu vas pas chez La Prairie ?
Non, je ne suis pas encore pour à ce point-là à payer 250 balles le pot. Mais il y a de la qualité même dans les pots qui sont un petit peu, on va dire, bon marché.
Ok, très bien. Après, on en parlera.
Franchement, de la qualité, quand t'es spécialiste poker, foot, crème de soin, tennis,
que choisir à classer la marque la rosée.
La
marque arrosée en tête.
Comme je suis marketing jusqu'au bout, je vais prendre la crème solaire de Yannick Sinner.
Qui est
La Roche-Posay, il fait la pub pour La Roche-Posay.
Vous me permettrez de faire confiance à Monsieur Lannoy ? Je pense que je veux un soin, parce que je me demanderai.
Allez, à vous les gars, jusqu'à 1h30 du matin, la Libre Antenne est là.
Ciao.
RMC, l'After Foot Intégral Euro.